Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ce n'était pas un secret tellement il parle tous les jours de la présidentielle de 2020, mais cela reste un événement. Donald Trump lance donc ce soir sa campagne pour sa réélection à un nouveau mandat de président. Ça se passe à Orlando, en Floride, et ce n'est pas un hasard puisque c'est un état clé dans la conquête de la Maison Blanche. Le président américain montre chaque jour une confiance inébranlable, dénigrant les nombreux adversaires démocrates qui se sont eux aussi lancés dans la course. Il s'appuie sur un socle électoral fort et inconditionnel de ses sympathisants, mais aussi sur de bons résultats économiques qu'il met en avant. Donald Trump est-il déjà réélu? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Laurie Kenton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes angliciste, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et auteur de « La fin du rêve américain ». Point d'interrogation chez Odile Jacob et de l'Atlas historique des États-Unis chez Autrement. Et Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire aux grandes écoles et spécialiste des États-Unis. La prochaine présidentielle américaine, c'est en novembre 2020. Autrement dit, dans 18 mois, Donald Trump est le sortant. Pourquoi faire un lancement de campagne officielle aujourd'hui, Laurie Kenton?
Parce que c'est du spectacle. Parce que ça permet de mettre toute l'attention sur Donald Trump, qui est le principal sujet d'intérêt de Donald Trump et des médias. Et donc, ça fait parler de lui. Pendant ce temps-là, on parle pas de Biden, on parle pas des autres, on parle pas de ses casseroles. Et ça lui fait de la pub gratuite. C'est le calcul traditionnel de Donald Trump.
Est-ce qu'on ne part pas un petit peu tôt, Corentin Célin?
Non, si on considère qu'en fait, il est parti pour sa campagne de réélection dès le premier jour de sa présidence. Il faut rappeler en effet que, contrairement à tous ses prédécesseurs, il a commencé à lever des fonds dès le premier mois de sa présidence. Il a levé en deux ans, jusqu'à fin avril 2019, en deux ans et quelques mois, environ 110 millions de dollars. Il faut savoir qu'à la même époque, Obama, à la même époque de son mandat, avait levé à même pas 10 millions de dollars. Donc, en fait, Trump l'avait annoncé. C'est quelque chose qu'il aime, en plus. C'est quelque chose... Cette ambiance de spectacle frénétique, cette tension de la campagne, il adore ça. On a parfois même l'impression qu'il aime ça plus que gouverner. Donc en fait, il est dans le prolongement exact de ce qu'il a fait ces deux premières années.
Alors parmi ses atouts, il y a l'absence d'opposants au sein du Parti républicain qui, après avoir regimbé, semble totalement en ordre de bataille, aux ordres, Laurie Kenton.
Alors ça, oui, c'est le plus étonnant parce que sa première victoire en 2015-2016, elle est d'abord et avant tout sur le Parti républicain. C'est contre le Parti républicain qu'il a mené la campagne. La plus longue, la suite de la campagne contre Hillary Clinton, c'était beaucoup plus court finalement. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il y a eu une tentative de mouvement Never Trump. Un certain nombre de républicains qui ont dit publiquement qu'ils n'avaient pas voté pour Trump, un certain nombre de gens qui se sont présentés contre lui dans l'Utah, par exemple un mormon. Donc on pouvait imaginer qu'il y aurait soit une mise en danger, c'est-à-dire un défi, un républicain qui se mette contre lui dans une primaire républicaine, ou carrément quelqu'un qui se présente comme un indépendant. Et ça, c'est encore plus dangereux parce que ça donne un effet de distorsion qui fait que, dans un état très serré, il suffit que quelqu'un lui prenne 5 000, 10 000 voix, ce qui est rien en pourcentage. Et ça fait dérailler la campagne. Quand on sait que le Michigan s'est joué à 10 000 voix la dernière fois, il faut réfléchir à deux fois avant de se faire défier.
Alors pourquoi cette mise aux ordres? Parce que la base électorale de Donald Trump est extrêmement enthousiaste. Il est C'est parce qu'il est volontairement clivant, Corentin Célin?
La première chose qu'il faut rappeler, c'est que pour n'importe quel républicain élu aujourd'hui, s'opposer à Donald Trump, ce serait suicidaire. Ce serait suicidaire parce que la Maison Blanche ne manquerait pas de susciter à ce rebelle un adversaire en primaire. Ouais. Et comme vous le disiez, il faut rappeler qu'actuellement, dans tous les sondages, le soutien des républicains à Donald Trump est à autour de 90% et même maintenant un petit peu au-dessus de 90%. Il n'y a pas d'opposition républicaine à Donald Trump pour des raisons politiques simples. Il a fait une réforme fiscale avec des baisses d'impôts massives qui ont profité en particulier à un électorat très riche qui est plutôt favorable aux républicains. Il a tenu absolument toutes ses promesses qui lui avaient valu d'être investi en 2016 par le parti républicain. Et puis surtout, il a un art aussi pour compromettre les éventuels opposants, c'est-à-dire dire que contrairement à son image un peu de balourde, etc., il s'est assez bien joué des faiblesses de ses rivaux. Je pense en particulier à Mitt Romney, l'ancien nominé de 2012, qui plusieurs fois a voulu se positionner comme l'anti-Trump honorable, le grand patricien républicain. Et puis, en fait, Trump l'a compromis immédiatement en lui faisant miroiter un secrétariat d'État qu'évidemment il ne lui a jamais donné, mais qui aujourd'hui fait que Romney ne peut pas s'opposer sérieusement.
Sur quel thème il va faire campagne? Ceux qui lui ont réussi jusqu'à présent, Laurie Kenton, immigration, bon résultat économique, America First. On va continuer sur la même veine?
Ça va dépendre de qui il a en face de lui. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour les midterms, il aurait pu faire campagne pas mal sur les bons résultats économiques, et il l'a pas trop fait. On a énormément parlé de la fameuse caravane d'immigrés du Honduras. Ça a été vraiment ce qui l'a agité le plus, alors qu'il aurait pu faire une campagne beaucoup plus positive sur ses bons résultats économiques, qui ne sont pas que ses résultats, mais bon, c'est lui qui est le président actuellement. Il pourrait donc logiquement faire une campagne et en partie axée là-dessus. Est-ce qu'il va le faire? C'est Trump, c'est pas forcément rationnel. Ensuite, l'identité de l'adversaire va changer un peu radicalement son fusil d'épaule. Si c'est Bernie Sanders, ce sera pas la même campagne que si c'est Joe Biden.
Oui, vous avez un avis là-dessus, Corentin Sénard?
Oui, j'ajouterais simplement que Trump, il a un grand risque aussi, il faut bien le noter pour cette campagne, c'est qu'il est dans une position complètement différente. En 2015-2016, personne ne l'attend. C'est le challenger absolu, les attentes sont très faibles. Au début, il faut se souvenir que quand il se présente il y a 4 ans, il est considéré comme un clown qui va faire un petit tour de piste, qui est là juste pour faire rire au début des primaires. Il surprend tout le monde. Il a une campagne extrêmement réduite, avec vraiment quelques proches, une campagne très peu professionnelle, qui fonctionne avec très peu d'argent. Aujourd'hui, il va devoir mener une campagne ultra professionnalisé, qui a déjà un nombre de staffers, de personnel extrêmement élevé, avec des moyens financiers sans commune mesure.
Il compte dépenser $1 milliard, c'est ça, hein?
C'est l'ambition qu'il a.
Il a des gens dans tous les États, il a tout l'appareil républicain. C'est pour ça que c'était important ce que vous disiez tout à l'heure. C'est important de voir qu'il a une armée, ce qui n'était pas le cas.
Et le risque, c'est que justement, il a été très bon dans le rôle du challenger, de la personne que personne n'attend, mais est-ce qu'il sera capable de mener une campagne de président avec des responsabilités, avec des grosses équipes? C'est pas du tout évident. Et le problème, c'est qu'il a un petit peu, on y a fait allusion, la tendance, on l'a vu pendant les midterms, à retourner toujours à ce qui a bien marché en 2015-2016. Donc l'immigration, mais peut-être que là, cette fois-ci, l'électorat sera ailleurs.
Alors, les midterms, justement, Laurie Kenton, quels enseignements, comment est-ce qu'on adapte sa campagne, comme le disait Corentin Sélin, après ces élections qui étaient mi figue mi raisin, on va dire, pour Donald Trump.
Alors, l'enseignement numéro un des midterms, c'est une participation historique. Dans certains États, moi je me suis amusé à regarder des résultats comté par comté dans les États de la Rose Belt, puisqu'ils sont absolument centraux, les candidats à l'élection sénatoriale pour les démocrates ont reçu plus de voix, pas en pourcentage, en nombre de voix, qu'Hillary Clinton. Ça, c'est du jamais vu.
Et c'est parce que d'habitude, on vote moins pour les midterms que pour la présidentielle, c'est ce que vous dites.
Considérablement moins, et là, on a voté plus que pour une présidentielle. Donc, le principal enseignement, c'est ça. C'est une participation qui est historique, qui est alimentée par l'anti-Trumpisme, très clairement. Des gens qui ne votaient pas sociologiquement votent, et des gens qui votaient peu votent beaucoup plus. Donc on peut partir du principe que Trump n'ayant pas énormément changé, l'anti-Trumpisme va être le même, l'anti-Trumpisme qui va alimenter la participation et l'implication en fait personnelle, les gens qui vont faire campagne, pas seulement aller voter, va être au moins la même. Donc on peut imaginer que ça aura un impact favorable pour les démocrates, puisque une faible participation a plutôt tendance à jouer pour les républicains, et une forte participation, l'inverse, pour les démocrates.
Corentin Sélin ?
C'est tout le pari de Trump. Et là encore, il refait le même pari qu'en 2016. C'est-à-dire de dire les hispaniques et encore plus les Afro-Américains sont contre moi, et de toute façon, je peu m'importe.
Parce je laisse tomber, j'abandonne cette frange d'électorat.
Ouais, alors un petit peu moins hispanique, mais par contre, l'idée, c'est de dire, de toute façon, ils votent peu, ils ont des taux de participation faibles, et tout doit être fait, en fait, pour les décourager de voter. C'est là aussi que la Maison-Blanche s'est coordonnée avec certains gouvernements locaux conservateurs pour mener des opérations de purge de votants, des nettoyages de liste électorale. Et par contre, je dois surmobiliser l'électorat blanc, non hispanique, qui lui a déjà des taux de participation plus élevés et qui vote, qui me sera plus favorable. C'est tout son pari. Inversement, les démocrates, bah, tout leur jeu, c'est de faire sortir pour aller voter le maximum de minorités afro-américaines en particulier. Ils y sont un peu parvenus, pas mal, pendant les midterms, mais ils doivent faire encore mieux pendant les présidentielles.
Alors, pendant la présidentielle de 2016, Hillary Clinton avait remporté ce qu'on appelle le vote populaire, et assez largement, hein, de plusieurs centaines de milliers de voix, plusieurs millions même.
Presque 3 millions.
Ouais, presque 3 millions. Mais Donald Trump avait fait la différence dans ce qu'on appelle les swing states, les états clés, ceux qui font gagner l'élection en raison du nombre de grands électeurs qu'ils envoient au collège électoral. Comment se présente la campagne dans ces swing states, ceux qu'il avait gagnés en 2016 et qui peut-être auraient un petit peu tendance à réfléchir en ce moment, Laurie Kenton?
Mais en fait, là où il a gagné, c'était pas des swing states, c'était des états qui étaient très bleus, ce qu'on appelle le Blue Wall, autour des Grands Lacs, qui sont des états industriels, enfin, ou post-industriels.
Pennsylvanie, Ohio.
L'Ohio est de plus en plus républicain, mais des états comme Michigan et Wisconsin, ces états qui étaient très bleus et donc dont on n'imaginait pas qu'ils puissent basculer, contrairement à la Floride qui est toujours sur le point de basculer d'un côté ou de l'autre, qui est très très imprévisible. Et donc, le fait qu'il ait gagné ces états-là, la question c'était, est-ce que c'est quelque chose de durable, ou est-ce que c'est juste un accident de parcours? Les élections de mi-mandat de 2018 et les sondages actuels laissent penser que c'est un accident de parcours, qu'il ne peut pas reconquérir ces états-là, et que, étant donné le nombre de grands électeurs qui y sont associés, c'est-à-dire ne serait-ce que déjà 20 pour la Pennsylvanie, il va falloir qu'il ait une combinaison d'autres États qui est assez improbable quand même pour l'emporter. Donc, arithmétiquement, ça semble assez compliqué, étant donné cet état de fait.
Corentin, c'est là ?
Oui, il faut toujours rappeler aux éditeurs, très simplement, que tout s'est joué dans trois États. La Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui étaient des États qui n'avaient pas voté pour un candidat républicain depuis très longtemps, 88 et 92, et qui ont basculé en faveur de Trump. Si jamais...
Pour très peu de voix.
Et pour très peu de voix, 11 000 voix au Michigan...
40 000 dans le Wisconsin.
Ouais, vraiment, pour des portions mineures. Et donc, si jamais le candidat démocrate, en 2020, garde les États de Clinton, qui, pour la plupart, sont vraiment des États démocrates enracinés, et reprend simplement ces trois États, il ou elle est président. Et le grand problème pour Donald Trump, c'est que face à cette carte électorale-là, où est-ce qu'il peut élargir sa carte électorale? Et il y a très peu d'États. Et d'ailleurs, là, dans les derniers jours, on a vu que la campagne Trump commençait à dire, voilà, on va essayer de mettre le New Hampshire, qui est un État du Nord-Est, en jeu, avec un petit État qui donne que 5 grands électeurs. Et pourquoi? Parce qu'ils sont un peu désespérés pour trouver des États où Trump pourrait élargir sa carte électorale.
Et au contraire, ça pourrait même être les démocrates qui peuvent élargir leur carte si on reste dans la lignée de l'élection de mi-mandat de 2018. Des États comme l'Arizona, qui a élu une sénatrice démocrate, pourraient très bien basculer pour les démocrates. Le Colorado, qui a élu un gouverneur démocrate, il y avait déjà un gouverneur démocrate, mais ils ont élu un nouveau gouverneur démocrate homosexuel, alors que le Colorado a parmi c'est un fief évangélique. Ça nous dit quelque chose aussi sur ce basculement.
Le grand nombre de candidatures démocrates parmi ce qui pourrait éventuellement le freiner, c'est un atout ou un problème pour Donald Trump, selon vous, Corentin Célin?
Alors,
ils sont en 23, je crois, au dernier
tour. Alors, il y a une réponse différentielle à faire. C'est un atout pour Trump, là, maintenant, au moment où on se parle. Parce qu'évidemment, lui, il incarne la présidence, le chef de l'État, face à 23 candidats, dont certains, il faut bien le dire, sont pas toujours très sérieux dans la candidature. Bon, évidemment, et puis ça donne une impression de dispersion démocrate et de manque de doctrine. Sauf que les primaires vont faire leur effet, qu'elles font toujours. Elles vont incarner le Parti démocrate en une personne. On va créer un candidat. Et dans un an... Ce sera plutôt un atout pour le démocrate qui sortira d'une primaire dure, qui aura été challengé, qui sera sorti d'une primaire très difficile par rapport à un Trump qui peut-être, lui, justement, cette fois-ci, il aura pas été beaucoup défié, il sera pas très, mûr pour la bagarre. Et ça, donc, dans un an, ça peut être un atout pour Trump. Mais, un défaut pour Trump, pour l'instant, c'est un atout.
Pour les démocrates, la campagne, elle a débuté puisque les caucus de l'Iowa qui marquent le début des primaires, c'est en février 2020 de l'année prochaine, c'est-à-dire dans 8 mois. Est-ce qu'ils vont parvenir à occuper le terrain face à un président qui est omniprésent médiatiquement, ce que vous disiez en début d'émission, il fait le show, c'est le cas aujourd'hui.
Ah, il fait le show parce que on parle beaucoup des démocrates. Hein. Là, il y a des débats qui arrivent à la fin du mois, d'ici une dizaine de jours. Deux débats, il y a tellement de candidats démocrates.
En Floride d'ailleurs.
Ils sont obligés de faire deux journées, deux soirées de débats, avec en gros la table des grands et la table des enfants, c'est un petit peu. Donc ça crée des.
Européennes en France, c'est ce que.
Il y a tellement de monde qu'on est obligé de faire différents. Donc ça crée des tensions. Mais ce qui sort de ça, c'est que les démocrates sont quand même plus à même de faire une campagne assez propre. Donc c'est-à-dire que on va avoir une campagne qui va être beaucoup plus axée sur les idées, avec des grosses disparités, des tensions sur un profil plus centriste, mais réaliste, c'est-à-dire en gros Biden, est-ce qu'il peut battre Trump, ou un profil beaucoup plus idéologiquement marqué à gauche. Et donc la question qui va être centrale, ça va être où on se retrouve au milieu, en fait. Le vainqueur, quel qu'il soit, quelle que soit son orientation, va-t-il ou va-t-elle réussir à attirer les autres, ce que Clinton n'avait pas trop réussi à faire avec les fans de Sanders, qui sont des fans plus que autre chose.
Oui, Corentin, c'est là, ils sont nombreux, mais vous le disiez, est-ce qu'ils sont unis? Hillary Clinton, quand elle était candidate, la bataille avait été rude, et il y avait des plumes qui étaient restées quand même.
Non, alors justement, ça, il faut bien le préciser, les démocrates n'ont toujours pas fait l'autopsie de la défaite d'Hillary Clinton. Ils ont, lors de l'élection du président du parti en 2017, ils ont ajourné ce débat fondamental, qu'on peut résumer, alors évidemment, en le simplifiant un petit peu, est-ce qu'il faut conserver la ligne social-libérale qui est celle du Parti démocrate depuis Bill Clinton et qui a été prolongée dans ses grandes lignes par Barack Obama, donc favorable au libre-échange, le multilatéralisme international, etc., et une coopération, on va dire, avec le libéralisme économique, avec le capitalisme? Ou est-ce qu'il faut aller sur une ligne de rupture avec le capitalisme financier libéral, sur quelque chose de beaucoup plus écologique, avec le fameux Green New Deal, et pour finir, avec aussi une intervention beaucoup plus forte de l'État, avec par exemple la proposition de Bernie Sanders d'avoir une assurance de santé universelle publique, une sécurité sociale à la française. C'est un vrai débat qui est là depuis 3 ans, le Parti démocrate. Un petit peu lâchement, ils l'ont mis sous le tapis pour les midterms, pour des gains électoraux. Mais là, cette primaire, c'est le débat final. Il va falloir trancher ce que veut l'électeur démocrate face à Trump.
Je
veux juste ajouter une chose. Il y a quelque chose de très important, c'est que pour la première fois aussi, Trump va être un très grand facteur, puisque il a laissé entendre très clairement qu'il ne va pas se gêner pour intervenir dans la primaire démocrate. Il a déjà commencé à le faire, ce qui est complètement inédit, en disant ouais, tel candidat est bien, tel autre candidat n'est pas bien. Donc,
eh ben justement, c'était ma question. Y a-t-il un démocrate que Donald Trump craint plus que les autres ?
À mon avis, clairement Biden, parce que Biden a un profil plus centriste et qu'il peut récupérer...
Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama.
L'ancien président de Barack Obama, qui bénéficie donc un petit peu en partie de l'effet Obama, mais c'est le plus à même de récupérer les électeurs perdus de la Rust Belt. L'ancien ouvrier Ford, blanc de l'Ohio, etc. C'est plus vers un profil comme Biden, qui vient de Pennsylvanie à l'origine, que contre les profils les plus à gauche, Elizabeth Warren par exemple, qui semble plus compliqué pour rassembler au centre, parce qu'une élection se gagne au centre, une primaire se gagne généralement à l'extrême de son camp, c'est ce qui a donné des candidats républicains assez facétieux, on va dire, mais l'élection de novembre, elle se gagne au centre, hein. Donc on peut perdre l'élection de novembre en gagnant la primaire.
D'ailleurs, Corentin Célin, à l'instant même où Joe Biden s'est déclaré, il y a un tweet de Donald Trump pour le moquer, pour le morigéner. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire.
Ah, il le cible. Il l'a ciblé très clairement. Il continue, il n'arrête pas. D'ailleurs, il lui trouve d'ailleurs quasiment à chaque jour un surnom. Hier, il l'a baptisé Motley Crue, du nom d'un groupe de hard rock bien connu. Et donc, ça dénote souvent chez Trump que c'est l'ennemi qu'il faut abattre. C'est l'ennemi prioritaire. Ceci posé, avec Biden, il a de très grandes vertus politiques, qu'a bien rappelé Laurie Kenton, mais il y a une inconnue majeure, c'est quand même son âge, le fait que c'est un homme qui a eu quand même des problèmes de santé très graves, hein, puisqu'on lui avait donné l'extrême onction il y a 30 ans, lors d'une rupture d'anévrisme. Et donc, d'ailleurs, Trump joue là-dessus, parce que c'est à la fois le candidat le plus dangereux, et peut-être que c'est aussi, paradoxalement, celui qui serait le plus facile à éliminer.
Alors, on se mouille, on est entre nous, réélu ou pas réélu, Laurie Kenton ?
Ah, on se mouille pas du tout, parce qu'avec Trump, tout est possible. A priori, moi, je dirais que statistiquement, le démocrate devrait l'emporter, mais Trump.
Non, alors, Prudence et maire de sûreté, on se souvient de 2016. On peut simplement dire que il est très très rare qu'un président ne soit pas réélu aux États-Unis, c'est-à-dire avec deux fois. Donc c'est quand même, la tâche est rude. Trump ou pas, pour le futur candidat ou la future candidate démocrate.
Merci Corentin Sénin, merci Laurie Kenton d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnold Lassoa, Florence Ponce, Léo Gâteau, Valentin Vaner. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.